Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série sur l'amour avec un texte de Pascal et la question « Pouvons-nous vraiment aimer quelqu'un ou n'aimons-nous jamais que quelque chose en quelqu'un ?» Lorsque nous disons « Je t'aime », nous affirmons aimer quelqu'un, toi, au-delà de toute qualité. Si nous disions « Je t'aime pour ton intelligence », alors nous pourrions aussi bien aimer quelqu'un d'autre, de plus intelligent. Il en va de même si nous disons « Je t'aime pour ta beauté ». Il suffit que cette beauté se fane et notre amour passe à des beautés plus fraîches. Comment donc aimer quelqu'un ? Comment continuer à l'aimer, lui, alors que je change et qu'il change ? Ici, bien sûr, se pose la question de la fidélité. Pour commencer notre réflexion, partons d'un célèbre fragment des Pensées de Blaise Pascal, lu par Clotilde Césari.
Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi puisqu'elles sont périssables ? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement, et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées.
Fabrice Hadjadj, on n'aime donc jamais personne. Quel est le contexte de ce texte ?
Alors, c'est un fragment des Pensées de Pascal. Alors, vous voyez, les Pensées de Pascal n'existent pas. C'est un livre qui n'existe pas. Pascal est mort alors qu'il avait en chantier un livre. Est-ce que c'était une apologie de la religion chrétienne ? Est-ce que c'était autre chose ? On ne le sait pas trop. Peut-être même qu'il s'agissait simplement de fragments à écrire comme cela. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de cela, on a publié ces fragments. Le titre de ce livre s'intitule généralement « Les pensées de Pascal ». Alors, vous voyez, c'est un livre très problématique parce que le livre n'existant pas, ce sont les éditeurs qui vont inventer le livre et qui vont même induire une certaine signification au livre en fonction de leur édition. Il y a eu, par exemple, une première édition où Pascal apparaissait vraiment comme un janséniste parce qu'on a classé les fragments de telle sorte que l'ordre de la lecture mettait l'accent sur l'aspect, disons, janséniste. C'est Dieu qui sauve par sa grâce, il n'y a aucune liberté humaine, etc. Bon. De l'autre côté, il y a eu des Pascal catholiques, on a réorganisé les fragments. Voilà. Il y a eu un Pascal sceptique dans la célèbre édition Brunswick, qui commence par la misère de l'homme sans Dieu et qui s'étend, on pourrait dire, très fortement là-dessus. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui lisent Pascal ne lisent que cette première partie, on pourrait dire, de ce Pascal extrêmement sceptique, celui qui dénonce le divertissement, voilà. C'est un livre extrêmement problématique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on aurait de nouveaux indices dans l'exploration, vous voyez, de la constitution de ces fragments chez Pascal. Et on attend une nouvelle édition qui, à chaque fois, se prétend comme étant, vous voyez, la nouvelle édition qui va nous donner l'architecture la meilleure pour entrer dans la pensée de Pascal. Donc voilà, c'est un texte difficile. Et d'ailleurs, même le fragment que nous avons, beaucoup le lisent par rapport à la question du moi. Qu'est-ce que le moi ? Ils ne le lisent pas par rapport à la question de l'amour. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis ? Est-ce que j'existe en dehors de toutes mes qualités ? Qu'est-ce qui reste de moi quand je perds mes qualités ? Admettons que je perde mon intelligence, je perde ma beauté alors que je suis quelqu'un de très séduisant, que je perde telle ou telle charge. Donc, il y a d'abord une réflexion sur l'inconsistance de l'homme, ou le fait qu'on accuse l'homme de jouer avec les apparences, mais est-ce que nous sommes quelque chose au-delà des apparences et au-delà même des fonctions mondaines ? Donc ce texte peut être lu de ce côté-là. Et puis, c'est ce que nous faisons, vous voyez, on relit le fragment. Vous voyez, quand vous prenez un fragment, vous changez son contexte, il change de signification. Nous, on a pris ce fragment et on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit sur l'amour, sur le fait d'aimer quelqu'un ? Est-ce qu'on aime quelqu'un ? Et on voit que c'est aussi dans le texte, hein. Est-ce que on aime quelqu'un pour sa beauté? Si j'aime quelqu'un à cause de sa beauté, il suffit que cette personne soit atteinte par la petite vérole, la variole, hein, c'est comme ça que ça s'appelait autrefois, et cette vérole va effacer sa beauté, ne va pas tuer la personne, je vais cesser de l'aimer. Alors, je lui aurais dit « je t'aime », mais en réalité, ce que j'aimais, ça n'était pas quelqu'un, mais quelque chose de quelqu'un. Et ce que j'aimais, eh bien, tenait simplement à sa surface, à son épiderme, à la qualité de sa peau. Il suffit que maintenant sa peau soit endommagée, grêlée par la petite vérole, pour que mon amour s'effondre. Et donc, vous voyez, il y a cette idée de la fragilité des émotions humaines, des sentiments humains, la vanité de la condition humaine. Et donc, on est tout à fait dans cette partie que Léon Brunswick appelait la misère de l'homme. Hein, et voilà, d'abord, voir cette misère de l'homme.
Fabrice Hadjadj, Pascal montre ici un paradoxe de l'amour. L'amour est ce qui est censé singulariser l'homme, le distinguer des autres, justement de tout ce que nous voyons passer dans la rue. L'amour est justement ce qui pourrait singulariser l'homme. Et cependant, tout ce qui pourrait singulariser l'homme, toutes ses qualités, peuvent être partagées par n'importe qui.
Oui, c'est d'ailleurs assez frappant que la comparaison avec celui qui tombe amoureux, c'est celui d'un homme qui se met à la fenêtre pour voir des passants. Ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire que, en réalité, ce qu'on aime, c'est toujours une figure qu'on ne connaît pas. Le moi ne nous intéresse pas. Ce que nous voyons, c'est le flux de qualités passagères, donc telle ou telle beauté. Alors voilà. Un homme tombe amoureux d'une femme parce qu'elle est bien roulée, il va lui dire « je t'aime », et en fait, c'est parce qu'il aimait ses fesses ou c'est parce qu'il aimait telle partie de son corps, et voilà que ce corps, c'est substituable. Le postérieur va s'abâchir, c'est un autre postérieur sur lequel je vais jeter mon dévolu. Voilà ce que dit Pascal. Donc, en réalité, on est dans un monde de qualité mouvante, voilà, qui passe comme un flux sous notre fenêtre. On regarde passer, on pense toujours à une autre célèbre fenêtre d'où l'on voit passer les gens, celle des méditations métaphysiques de Descartes, où on voit des chapeaux, par exemple, passer en bas. Voilà, on voit des manteaux et des chapeaux. Eh bien voilà, on voit des beautés, on voit des intelligences, mais ce qu'il y a en dessous, finalement, nous ne l'atteignons jamais. Et ça, c'est une affirmation extrêmement forte. Mais il faut toujours voir comment... Quel est le raisonnement de Pascal ? Parce que c'est un raisonnement toujours qui se renverse. Quand l'homme constate sa misère, qu'est-ce qu'il constate aussi ? Parce que s'il constate sa misère, il se dit « Ah, je suis misérable, c'est terrible. » Eh bien, il constate aussi qu'il n'était pas fait pour cette misère. Donc, il est déchu. Donc, il est comme un roi qui a perdu sa couronne. Donc, j'étais roi. Et donc, c'est derrière, il y a toujours la question du péché originel. De la même façon, pourquoi disons-nous « je t'aime » alors même que, effectivement, nous voyons bien que souvent, nous ne nous attachons qu'à des qualités. Eh bien, ça veut dire que, et même, j'irai plus loin, et que même on sent qu'il y a quelque chose comme une perfidie, hein, de passer d'une personne à l'autre et de nous attacher seulement aux qualités plutôt qu'aux personnes qui sont porteuses de ces qualités. Donc, on voit bien qu'il y a tout d'un coup ce qu'on appelle une infidélité, une trahison. Donc, nous disons malgré tout « je t'aime ». Pourquoi nous le disons ? Nous pourrions nous dire simplement « j'aime ta beauté, point ». Et quand ta beauté partira, je m'en irai. Et on voit qu'il y a un scandale à dire cela. Il y a quelque chose de faux. Et en même temps, nous voyons bien que c'est très difficile de soutenir la vérité du « je t'aime ». C'est-à-dire qu'effectivement, quand la beauté partira, il y a une épreuve terrible pour l'amour. Donc, ce que dit Pascal, c'est que malgré tout, il y a en nous quelque chose qui veut dire « je t'aime » et qui cherche la vérité du « je t'aime ». Mais nous sommes déchus, vous voyez, encore. Hein, c'est comme si nous étions faits pour aimer les personnes et en réalité, nous n'aimons que des qualités. Et là encore, c'est la marque du péché originel. Donc, vous voyez, la pensée de Pascal est toujours à double tranchant. Pascal nous fait voir notre misère, mais notre misère est le signe, puisqu'on la constate comme une misère, sinon on dirait, ben, c'est normal, tout va bien, bon, il ne faut pas chercher davantage, non, comme une chute. Et là encore, le fait même que, finalement, je suis infidèle, je suis volage, je ne cherche que des qualités, en fait, parce que ça m'apparaît comme quelque chose, malgré tout, d'indigne, de bas, justement, comme du libertinage, comme de la superficialité, eh bien, ça veut dire que j'étais appelé à une autre profondeur. J'ai perdu cette profondeur et cette vérité de l'amour. Mais ça veut dire que cette vérité et cette profondeur existent. Comment je vais la retrouver? Eh bien, voilà, par la grâce.
Fabrice Hadjadj, ce que Pascal ne dit pas, pourtant, c'est que les qualités sont adhérentes. Lorsque j'aime la beauté, j'aime cependant la beauté dans telle personne.
Effectivement, la beauté en soi n'existe pas. Vous voyez, c'est, pour reprendre la terminologie d'Aristote, la beauté, la blancheur, l'intelligence, ce sont des accidents qui sont dans une substance. Elles n'existent pas par elles-mêmes. C'est toujours l'intelligence de quelqu'un, c'est toujours la beauté de quelqu'un. Donc, effectivement, on voit là qu'il y a un problème majeur, c'est que les qualités n'existent que dans un sujet. Et le problème de cet amour superficiel, qui est souvent le nôtre, c'est que nous arrachons, nous sommes dans un monde de qualités sans sujet. Donc, voilà, d'où l'image extraordinaire, voilà, d'un homme qui n'habite pas le monde, qui est juste à la fenêtre et qui regarde passer des passants. Voilà. Et ça, c'est la question. Quand est-ce que je ne vais pas simplement être à la fenêtre avec ce flux des passants, mais que je vais vraiment rencontrer quelqu'un? Je vais être avec une personne, enfin, un interlocuteur, une altérité. Or, vous voyez, si on est justement dans un monde sans sujet, qu'avec des qualités, eh bien voilà, c'est un problème. Mais maintenant, Pascal pose un second problème, qui, à mon avis, est le problème le plus fort de ce texte, c'est qu'il dit « Mais est-ce que je peux dire à quelqu'un « je t'aime » indépendamment de toutes tes qualités aussi ?» Parce que c'est aussi l'inverse qu'il envisage. Il dit « Comment aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent, cela ne se peut et serait injuste. » C'est fou, hein ? Non seulement ça ne se peut pas, mais en plus ce serait une injustice. Donc là, c'est l'autre aspect. Supposons que nous aimions un sujet sans qualité. Vous voyez, donc, vous connaissez, c'est le dialogue permanent quand la femme ou l'homme dit « Bon, est-ce que tu m'aimes ? Pourquoi tu m'aimes ?» Alors, je vais dire « Ben, je t'aime pour ta beauté. » Alors, je dis « Mais oui, mais alors, s'il y a une autre femme plus belle, tu vas l'aimer elle. » « Non, 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 je t'aime pour toi-même. » Oui, mais alors, si c'est moi-même, ça pourrait être n'importe qui, parce que n'importe qui d'autre aussi est un moi. Donc, c'est bien aussi à cause de mes qualités. Donc, vous voyez, c'est que la personne, elle est aussi un faisceau de qualité, ça c'est certain. Et qu'on ne peut pas aimer un pur sujet qui serait aussi sans qualité ou dans une pure abstraction. Donc on ne peut pas aimer des qualités sans sujet, c'est un monde superficiel où on n'est qu'avec des passants et il n'y a jamais de vraie rencontre. Mais on ne peut pas non plus aimer des purs sujets qui seraient sans incarnation, si j'ose dire. Parce que là encore, ce serait une pure identité numérique, sans histoire, sans visage, et ça n'a aucun sens.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, aime-t-on quelqu'un ou seulement quelque chose de quelqu'un? Fabrice Hadjadj, cet amour des qualités sans sujet, est-ce que ce n'est pas justement l'amour de Don Juan?
Alors, le Don Juan de Molière, effectivement, fait l'éloge de l'état naissant, de l'amour. C'est-à-dire, l'amour ne peut pas vieillir. Il ne supporte pas la longévité, il n'a pas d'endurance. Au fond, c'est toujours des moments d'éternité qu'on entrevoit pour Don Juan. Et donc, c'est quoi ? Ben, c'est même une soubrette, hein, même une fille d'une, on pourrait dire, d'une beauté moyenne, prise dans le bon angle, au bon moment, elle nous fait voir l'éternité. Voilà. Et inversement, même la grande beauté, eh bien, si on reste un peu trop, si on se lève avec elle le matin, elle ne s'est pas apprêtée, elle perd aussitôt cette beauté. Donc, Don Juan est quelqu'un qui aime effectivement la beauté sans personne derrière. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, parce que chez Don Juan, il y a une ambivalence. Hein. D'une part, il ne va aimer que cette beauté qui se saisit dans certains moments, et par cette beauté, il va voir une merveille qui n'a pas le temps de vieillir, pas le temps de se faner. Et puis de l'autre côté, il va quand même vouloir, parce que ce n'est pas simplement coucher avec, posséder cette beauté, il va vouloir quand même que la personne, dans sa liberté, renonce, par exemple, à se marier avec un tel, abandonne son amant, abandonne... Vous voyez ? Donc, il a aussi envie, non seulement d'avoir un monde où il y a des qualités sans personne, mais il veut comme s'assurer aussi que la personne va pouvoir la manipuler comme une chose. Vous voyez, il y a ce double mouvement chez Don Juan, et ça, c'est vraiment un caractère particulier. C'est-à-dire qu'il voit des qualités, mais il ne veut aimer que cette qualité, oublier le sujet. Mais en même temps, il va vouloir que la personne, le sujet, qui est apparemment un sujet libre, eh bien, il va pouvoir lui confisquer ou lui capter sa liberté. C'est pour ça qu'il dit aux femmes qu'il va les épouser, ou qu'il va, ouais, et puis après, il les abandonne. Il va sortir Doña Elvire de son couvent, mais en même temps, au nom de grands serments de choses, et puis après, il va la laisser. Il a réussi à l'arracher à Dieu. Et donc, il a réussi à montrer que même les personnes, en fait, n'étaient rien. Les personnes n'étaient personne, puisqu'il arrive à les manipuler à sa guise. Et à ce moment-là, Don Juan lui-même, qui est-il ? Voilà, c'est ça la question. Quel est son propre problème ? Quand le commandeur vient le chercher, il lui demande au fond de se repentir et d'être enfin consistant. Et la descente de Don Juan aux enfers, la statue du commandeur, qui n'est plus vraiment une personne, qui est juste une statue, c'est déjà le fait que même Don Juan n'a pas accès à lui-même, puisque s'il n'y a plus personne et qu'il n'y a que des qualités mouvantes, lui-même n'a plus de consistance. Et c'est ça, cette fin de Don Juan. C'est le fait qu'il tombe lui-même, en n'ayant aimé personne, dans sa propre inconsistance, et il ne devient plus personne.
Cette inconsistance du fait de ne s'attacher à personne, Fabrice Hadjadj, est-ce que son pendant n'est-il pas justement la fidélité ? Mais dès lors, comment penser la fidélité à partir de ce texte de Pascal, si tout ce que nous aimons n'est que changeant ?
Oui, c'est une question très difficile, vous savez, parce que c'était une remarque que faisait très bien Diderot. Il disait en gros, ben voilà, si j'épouse une femme à 20 ans, je lui dis oui quand elle a 20 ans, eh bien la fidélité suppose que quand elle en a déjà 30, c'est plus la même femme, donc que j'aille vers une autre femme de 20 ans. Voilà, bon. Donc je suis fidèle à moi-même, puisqu'après tout, j'ai épousé quand elle avait 20 ans. Et puis, il dira, ben, en gros, si je jure ma fidélité sur ce rocher qui est stable, mais même le rocher s'effrite. Donc, sur quoi vais-je juger ma fidélité ? Sur le ciel, qui est changeant, dont les nuages passent, sur le rocher qui s'effrite, sur... Il n'y a rien, rien n'est stable en ce monde. Il n'y a absolument aucune stabilité. Donc, généralement, on va critiquer le mariage en disant, ben voilà, il vaut mieux ne pas se marier, parce que épouser une femme, c'est renoncer à toutes les autres. Voilà. Il vaut mieux aller d'une femme à l'autre. Mais ce qui se passe à ce moment-là, et on le découvre aussi, c'est que c'est en réalité une impasse. Parce que soi-même, qu'est-ce qui nous arrive ? On est dans des relations toujours extrêmement superficielles. l'amour n'est que la vision voilà, fugitive d'une passante, et même à la limite, tant qu'elle est passante, c'est bien, si elle reste, ça devient problématique. Ou alors, ça n'est que friction de muqueuse avec la passante, et voilà, tout passe. Or, il y a quelque chose dans la parole qui nous pousse à dire « je t'aime ». Et ça, c'est très étonnant, parce que quand on dit « je t'aime », on dit « il est bon que tu existes », et « je vais rester avec toi, je suis bien auprès de toi ». Et à ce moment-là, on entre dans une logique de fidélité. C'est comme si, parce que c'est, au fond, Pascal a raison de dire « quand nous disons « je t'aime », souvent c'est à partir de qualité, mais la parole « je t'aime » tout d'un coup nous engage. Dire « je t'aime », c'est s'adresser à une personne et reconnaître que l'autre est une personne. Et à ce moment-là, bien sûr que la personne, ses qualités vont changer. D'ailleurs, elle peut perdre des qualités, mais elle peut en gagner d'autres. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas que le fait de dépérir et se décatir. Je veux dire, on peut se bonifier dans le mariage. Enfin, moi, j'espère que ça m'est arrivé. J'étais un jeune adolescent, puant, séduisant peut-être, mais un faiseur, quoi. Et voilà que par le mariage, je suis devenu plus sage, un père de famille. Il y a des qualités que j'ai gagnées, que je n'avais pas auparavant. Donc, ce n'est pas simplement la perte de qualité. Il y a des beautés qui deviennent des beautés, bien sûr, plus morales, plus spirituelles aussi, que l'autre va avoir à travers ses rides. Il y a une beauté aussi de la vieillesse. Et notre regard aussi se purifie. On parlait de l'amour comme purificateur avec Platon, mais justement, l'endurance dans l'amour fait qu'on a eu une femme, oui, et puis on est avec encore une autre femme parce qu'elle a changé. Finalement, hein, l'homme volage est toujours avec la même femme. L'homme volage, lui, il cherche un stéréotype de jeune femme et puis il va passer de l'une à l'autre. Mais l'époux fidèle, eh bien, il y a d'innombrables femmes qui vont se succéder en sa femme parce que les qualités ont changé. Et en plus, il sera avec quelqu'un. Il va mener, finalement, une aventure. Au lieu d'être dans ce registre, on pourrait dire, simplement pulsionnel, où on a été fasciné par une qualité et on veut se l'approprier, quand cette qualité s'en va, on s'en va soi-même, eh bien, on est dans un registre où on s'attache à quelqu'un et on se dit, voilà, nous allons courir cette aventure ensemble. Et bien sûr, il va y avoir des épreuves. Et bien sûr, par exemple, ma femme, voilà que ma femme est défigurée. C'est une épreuve, il n'y a pas de doute, la petite vérole, c'est une épreuve, il n'y a pas à le rejeter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'idée de Pascal, c'est que cette épreuve est à traverser dans la grâce. Pascal pense que nous n'avons pas nos forces en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut quand même la vérité d'un sacrement, peut-être, pour nous pousser à tenir avec la croix. Mais surtout, on pourra dire, j'ai aimé quelqu'un, j'ai été avec quelqu'un, j'ai été auprès de quelqu'un. Je n'étais pas qu'un passant dans cette vie, je n'étais pas qu'à ma fenêtre en train de voir défiler des qualités. J'ai mené l'aventure en tant qu'homme. Et parce que j'ai aimé quelqu'un, je suis devenu quelqu'un. Ça aussi, c'est qu'on parlait de l'inconsistance de Don Juan. Parce que je suis entré dans une histoire. La fidélité, c'est tenir parole. Tenir parole, ça veut dire qu'il y a ce fil rouge de ma parole qui a traversé le temps. Je n'ai pas à chaque fois fait un choix pour le défaire par le choix suivant. Il y a vraiment cet engagement personnel où j'ai tenu à travers les aléas du temps. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si je n'ai pas tenu, je suis personne. Si je n'ai pas tenu, bien, ce sont ces aléas qui me gouvernent et moi-même, je perds toute consistance et je suis, voilà, je sais qu'on fait l'éloge aujourd'hui de la fluidité, mais en fait, bon, cette fluidité, c'est l'inconsistance totale et c'est n'avoir été jamais personne.
Fabrice Hadjadj, Pascal semble voir habituellement la scission qu'il y a entre le qui et le quoi. Est-ce que l'amour ne serait pas le lieu d'union, enfin, et de où le qui et le quoi se retrouvent?
De fait, quand on aime quelqu'un, on l'aime avec toutes ses qualités, on l'aime à travers l'acquisition d'autres qualités, la perte, l'épreuve d'avoir perdu, parce que perdre sa beauté, c'est d'abord une épreuve pour celui qui la perd, pas sauf celui qui aime, Et on va dire, ben, ce quoi que tu avais, que tu as perdu, je l'ai vu, j'en suis témoin avec toi, et je reste avec toi. Et nous allons ensemble traverser cette épreuve. Et vous voyez, ça veut dire que le moi, chez Pascal, est toujours relationnel. On est quelqu'un qu'en aimant quelqu'un, qu'en tenant sa parole à travers le temps. Et donc le moi aussi se révèle toujours à travers une épreuve dans l'amour avec l'autre.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Blaise Pascal, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé, Clotilde Césari à la lecture et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.